Il est là.
En vert ?
Oui. On peut s'approcher un peu, il faut regarder un petit peu. Un petit peu magnifique.
Est-ce que vous pourriez le décrire ?
Oui, alors pour le moment, disons, il est à l'abri, il a des intempéries. Mais tel qu'il a été fait, donc il fait 10,50 m de long, 3,50 m de large, en bois massif, construction ancienne, avec des membrures sciées et des membrures ployées.
Ce Morvac, vous l'avez construit en 1971, et à l'époque, vous n'aviez pas du tout de connaissances, c'est ça ?
Oui, bah, je l'ai construit, donc j'ai commencé en 1970, retour du service militaire, et il a été mis à l'eau en 1971. Ce que je voulais, c'était avoir un bateau pour faire un petit peu de croisière, donc un bateau habitable. Et j'ai feuilleté les petites annonces, mais même les bateaux d'occasion, ça dépassait mes possibilités. Et quand j'ai rencontré Auguste Hertu, qui était le patron d'un chantier à Rostelec, qui était un amoureux de la construction de bateaux, il m'a dit, bah, si tu veux un bateau, bah, tu le fais. Le chantier est à ta disposition. Et donc je me suis lancé comme ça, quoi. Je l'ai pris au mot, puis... Il m'a construit, il m'a sculpté une maquette. Et à partir de là, j'ai pris les cotes, enfin j'ai redessiné le bateau à l'échelle 1. Et puis ben, j'ai pris le dessin, j'ai pris le bois, puis j'ai coupé les morceaux, je les ai assemblés. Puis ça a donné un bateau que tout le monde trouve superbe.
Vous l'avez construit tout seul ou vous avez été aidé ?
Je peux dire que je l'ai construit tout seul, avec quelques conseils quand même de charpentier. Et ponctuellement, avec les aides de frères et sœurs qui venaient quand il y avait des morceaux de bois assez lourds à passer sur la scie, et c'était un peu lourd pour tout seul. Donc ponctuellement, j'avais des coups de main. Et comme je venais de me marier, ma femme a beaucoup aidé aussi pour digérer pour les finitions, pour entretenir le bateau, pour le passer de l'huile de lin, pour mastiquer les joints. Enfin, il y a beaucoup de travail digéré de petites mains dessus, quoi. Autrement, le gros de la charpente, oui, je l'ai fait tout seul. Ouais. Toutes les pièces, le bois, sont sorties de mes mains. Quoi.
Ça a mis combien de temps ?
Ben, il faut compter un an et demi. Je commençais, disons, en gros, à le construire à Pâques 70, et il a été mis à l'eau au mois d'août 71.
D'où il vient le nom de Morvac ?
Alors, Morvac, c'est le nom du cheval du roi Gralon. C'est un cheval spécial... on en parle dans la légende de la ville 10. C'est un cheval mythique qui a sauvé le roi Gralon au moment du naufrage de la ville 10, parce que c'était un cheval très, très fort et il courait tellement vite qu'il pouvait courir sur l'eau, parce que le temps de poser ses sabots dans l'eau, il n'avait pas le temps de s'enfoncer que déjà il relevait la patte pour la poser plus loin. Ça lui permettait de galoper sur les flots. Et donc c'est un cheval qui marche très bien sur l'eau. Et en plus, Morvac, c'est la mer, et Var ou Mar, c'est le cheval, donc c'est un cheval de mer. Je trouvais que ça correspondait très bien pour un bateau.
Du coup, le Morvac, il a participé à de nombreux événements durant toute sa vie, c'est ça ?
Il y a 50 ans cette année, donc oui, il a fait tous les rassemblements d'Ornenay et Brest. Il a toujours été présent, et bon, aux fêtes de Camaret aussi, bien sûr. Et c'est l'occasion pour beaucoup de monde de monter à bord. Alors, je ne peux pas prendre 50 personnes à bord, hein, mais tous les amis des enfants, les amis, etc., enfin, les connaissances, tout le monde se relaie à ce moment-là pour venir à bord et profiter du spectacle et de naviguer à la voile, etc. Quoi.
C'est quoi son histoire au Morvac ?
Oh, c'est une longue histoire. Moi, je l'ai toujours connu, en fait, hein, parce qu'il est plus vieux que moi. Donc, je suis arrivée dans la famille après, je dirais, quelque part. Hein. Son histoire, c'est d'abord une histoire de passion, hein. C'est indéniable. Une passion pour celui qui l'a construit, qui avait envie de le faire, une passion aussi pour celui qui l'a dessiné, parce que c'était un amoureux de Tertu, était un amoureux des bateaux, et là, c'était un bateau qui ne ressemblait pas à ceux qu'il avait l'habitude de faire. Il a l'habitude de faire des très 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 gros bateaux pour la pêche au large, mais aussi des bateaux de régate, et là, la commande était un petit peu différente en termes de design. C'est aussi une passion pour tous ceux qui sont montés à bord. Enfin, je pense pouvoir dire ça parce qu'on a été hyper touchés par vraiment les témoignages qu'on a pu avoir quand il s'est échoué. Tout le monde n'est pas toujours très expressif, donc il y a des choses qui ne s'étaient pas forcément formulées, je dirais, avant ce jour-là. des gens qui aimaient bien venir, qui étaient venus, des fois même qu'une fois, et qui là vraiment ont exprimé leur, leur bouleversement, quoi. Ça paraît un peu dingue, mais c'est un peu... Vous savez, en Angleterre, on dit « she » pour un bateau, c'est une personne. Et en fait, on a vraiment vécu ça comme ça, ce jour-là. Où les gens nous disaient, bon, on a l'impression que c'est un membre de la famille, on a l'impression que c'est un membre des amis qui est malade et qu'il faut faire quelque chose, quoi, qu'il faut l'aider. Voilà. Donc c'est tout ça. C'est beaucoup de moments conviviaux parce que quand on monte sur un bateau, on est dans un espace à part. C'est un temps à part. On vit avec les éléments. On n'est pas distrait par plein de choses. Même si maintenant il y a les téléphones, souvent ils servent pour les photos, ils sont mis dans un coin. Et donc c'est aussi des moments d'échange et de partage avec la nature et avec les gens qui sont à bord, c'est particulier quoi. Et je crois qu'en fait il y a un petit côté magique qui opère sur le bateau. Ah, ça c'est surtout pour les sorties courtes, après il y a plein de moments plus longs, plus, soit festifs, soit des croisières. Hein. Donc il y a des moments durs, des moments où on se demande pourquoi on ne choisit pas un camping-car, des moments où c'est magique, où il y a... Voilà, vous avez l'eau qui est phosphorescente, vous avez les étoiles dans le ciel, et c'est toute la magie du bateau, qui en plus sur un bateau comme ça est particulière parce que nous on n'est pas en pilote automatique. Quoi, hein. Genre, voilà, quand on a fait la traversée, c'était 35 jours entre les Antilles et les Açores, et c'est 35 jours où on ne peut pas s'arrêter, et on est sur le pont. Quoi. Et on a bien vu en arrivant aux Açores qu'on n'avait pas tous vécu la même histoire. Parce que voilà, c'est comme ça la navigation sur ce genre de bateau aussi, ça triche pas quoi. On est avec le bateau, on vibre avec le bateau, on est avec les éléments. Donc c'est tout ça aussi Morvac. Hein. Et je pourrais en parler pendant longtemps, comme vous voyez. Donc je dirais c'est un côté magie, un côté passion quoi, voilà.
Vous avez grandi avec le Morvac. C'est quoi votre histoire personnelle avec le Morvac?
Ah ben oui, on peut dire ça, parce qu'effectivement, je suis montée à bord, je pense que j'avais quelques mois, j'étais dans un couffin. On m'avait installé un hamac avec une fermeture éclair pour pas que je tombe quand ça bouge trop. Voilà. Et puis, j'ai jamais vraiment quitté le Morvac, j'ai amené tout le monde, tous mes amis sont montés avec moi. Ma sœur aussi, ma sœur en étant enceinte était aussi à bord jusqu'au dernier moment. Enfin voilà, il a toujours été au centre de nos moments de vacances d'été et puis nos vacances de printemps aussi pour l'entretenir. Ça c'était des fois un peu lourd, mais ça nous paraissait juste une évidence quoi de l'entretenir, de faire en sorte qu'il soit beau, qu'on soit bien dessus, qu'il tienne quoi. C'est pour ça que c'est assez terrible. D'ailleurs les bordées, on voit là, c'est assez horrible à regarder, mais le bois est bon en fait. Il y avait des choses à changer au niveau du pont et tout, parce que ça c'est normal hein, le bois qui a l'air libre et qui est avec l'eau douce, c'est pas terrible. Mais les bordées, ils sont, si vous regardez, ils sont nickel quoi. Le bois il est en très bon état. Les joints, c'est pareil. Enfin, ben voilà quoi. C'est un bateau costaud et voilà.
Ça serait quoi l'anecdote la plus marquante que vous avez eue à bord du Morvac?
Oh, il y en aura beaucoup. Alors la plus marquante, je sais pas. Bon, celle qui m'a choqué le plus, c'est son naufrage là, évidemment. Mais enfin, c'est pas le but de sa vie. Le meilleur souvenir, je pense, c'est sa croisière aux Antilles, qui a été vraiment un point d'orgue un petit peu dans sa carrière. Quoi.
Ça, elle a duré combien de temps, cette croisière?
Ben, on est parti au mois d'octobre, début octobre 2003, et on est revenu fin juin 2004.
C'était en famille?
C'était en famille, oui. J'avais une fille, donc Gwenola, qui était avec moi, et un ami. Pour partir, ma deuxième fille nous a rejoint pour la traversée. Elle était au Vanuatu à l'époque et elle n'a pas pu résister. Elle nous a rejoint aux Canaries pour faire la traversée, pour aller jusqu'aux Antilles. Et on a caboté un petit peu aux Antilles parce qu'il y a plein d'îles là-bas, plein de mouillages merveilleux. Et il y a des amis qui nous ont rejoints là-bas aussi. Enfin, il y a eu la relève, ceux qui pouvaient en profiter. Et après, on est rentré avec plein de souvenirs. Quoi.
Que vous auriez une anecdote marquante sur le Morvac?
Bah alors je vais raconter celle qui est marquante. Oui, on peut dire qu'elle est marquante parce que c'est sans doute une de celles qui nous a fait le plus peur. C'était justement une des quand on est parti aux Antilles. Hein. Donc c'était entre les Canaries et les Antilles. Et cette année-là, en fait, il y avait une tempête tropicale. Mais c'était pas prévu. Hein, ça. Une fois que vous êtes en mer, voilà. Et donc en fait, toutes les nuits, il y avait des tempêtes. Et c'était super lourd, quoi, d'avoir des tempêtes avec des orages toutes les nuits, toutes les nuits. Et bon, on avait déjà beaucoup navigué sur le Morvac, mais on n'avait pas encore joué avec les voiles à ce point-là, en fait. Et on savait que dans une mer au large, en fait, il y a toujours de la mer, hein, au large. Donc, c'est pas super de pas être tenu par les voiles. Donc, on n'avait jamais fait à sec de toile parce que c'était pas du tout pour nous envisageable. Et parce qu'il faut tenir le bateau et tenir dans le bon sens aussi, parce qu'on voulait quand même aller aux Antilles et non pas au Cap de Bonne-Espérance, quoi. Et en fait, cette nuit-là, j'allais prendre mon car, hein, c'était au milieu de la nuit, je ne sais plus, enfin, 1h du matin, un truc comme ça. Et mon père me dit, ah, je vais rester tenir la barre, là, parce que juste un moment avec toi, parce que là, il y a un grain qui arrive et je pense que, bah, il ne doit pas l'air trop cool, quoi. Donc je monte quand même, je m'amarre, hein, quand on est comme ça la nuit, on est harnaché, hein, parce que surtout qu'en plus avec les tempêtes. Et là, le grain arrive et c'était vraiment un très très méchant grain, quoi. Et donc le bateau gîte, il se met, enfin c'est pas un gitard, hein, normalement, donc il met quasiment le bout de la baume dans l'eau, donc c'était assez effrayant. La mer devient blanche, hein, même en pleine nuit, elle devient blanche. Et en fait, ma sœur s'est réveillée parce que c'était pas confortable. Et elle se demandait ce qui se passait. En fait, elle était sur les membrures. Hein. Le bateau était tellement couché qu'elle avait roulé sur les membrures, en fait. Donc ouais, ça, c'était vraiment un moment où que les minutes nous ont paru très, très, très longues, quoi. On avait peur qu'il y ait un truc qui lâche. Et donc, elle, comme elle était à l'intérieur, elle regardait l'anémomètre. Et en fait, l'aiguille était coincée, quoi. Elle était coincée au maximum, elle dépassait 60 et elle ne pouvait plus indiquer plus parce que 60 nœuds, il n'y a pas, quoi. Donc, elle avait dépassé 60 nœuds, elle était embutée. Et donc, on ne sait même pas combien il y a eu de vent à ce moment-là, mais c'est un moment où vraiment, tout est suspendu, quoi. Vous êtes vraiment à la merci, ça ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas de bouton, quoi. Donc, il faut tenir. et puis, toutes les pensées vont très vite et vous espérez qu'il n'y a rien qui bouge. Et là, il y a quand même une écoute qui a lâché. L'écoute de phoque, ça commençait juste un petit peu à baisser, c'est-à-dire qu'on devait peut-être être à 55 à ce moment-là, un truc comme ça. Et donc il a fallu que j'ai pris le relais, j'ai pris la barre. Alors on était debout sur le banc de car, hein, pour tenir la barre, parce que comme c'était gîté vraiment très fort, on ne peut plus toucher au voile, hein, dans ces cas-là. Mais là, il fallait faire quelque chose vite, parce que sinon on risquait de tout déchirer, de mettre le phoque dans l'eau. Enfin, c'était... Et donc mon père est parti vite fait à l'avant pour s'occuper du phoque. Moi j'avais peur que l'écoute, parce qu'elle écoute bas, tout bas dans ces cas-là, enfin c'est dangereux. Et c'est à ce moment-là que je me retrouve avec la barre dans la main, c'est-à-dire la barre se débloque, se défait du gouvernail. Donc j'étais comme avec un bilboquet à essayer de remettre la barre dans le gouvernail pour pouvoir barrer ce putain de bateau. Voilà, c'était sport, quoi. Et donc j'avais ma sœur qui était dans le hublot qui donnait du rouf à l'arrière et qui était là, vas-y, vas-y, tu peux le faire. Donc oui, c'était. Je pense que dans un film ça aurait été pas mal, ça. C'était assez apocalyptique, ouais. Et c'était drôle parce qu'on avait l'impression qu'il y avait moins de vent. Je dis, ah, mais ça s'est calmé là, non? On me dit, ouais, t'es à 50, quoi. Ce qui est quand même déjà beaucoup. Et on avait un autre copain qui, lui, se réveille en disant, ah, c'est quand même pas très confortable. Et puis il va comme ça, là. Et on se disait, mais comment il fait pour se rendre compte de rien? On était un peu jaloux de voir qu'il était assez placide, je dirais, par rapport à tout ça. Il se rendait pas compte, en fait. Il était un peu dans son sommeil encore. Je pense que c'est le seul qui a vécu ça comme ça. Après, quand il a réalisé, il était un peu moins cool. Donc, ouais, ça, c'était une anecdote très forte en émotion. Ouais. Après, il y en a qui sont beaucoup plus sympas. On a, par exemple, quand il y a le petit matin qui se lève et puis que vous avez un troupeau de dauphins qui saute à l'avant du bateau, c'est juste magique, quoi. Vous avez l'impression d'avoir le monde qui vous appartient et toute la création pour vous, quoi. C'est des moments émouvants.
Et donc, vous en avez parlé, le Morvac, maintenant, il a besoin de réparation. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la tempête, Alex?
Ben, il était au mouillage à l'entrée du port. Il avait été amarré par une grosse saussière de plus de 30 mm de diamètre, plus une chaîne en sécurité. Et il y avait donc pour la tempête Alex, il y avait des vents de nord très forts, et qui a généré un clapot à l'entrée du port qui était plus fort que d'habitude. Ce qui occasionne un tangage très fort pour le bateau.
Ben, c'est un coup de pas de chance, quoi. C'est une combinaison de mauvais facteurs, en fait. Qui fait que c'était le vent du mauvais côté, le vent qui a duré trop longtemps. C'est une tempête qui a duré 2 jours, hein. C'est pas souvent qu'on a une tempête aussi qui dure 2 jours. Du côté du où le port n'est pas vraiment abrité.
Et moi, je suis venu voir vers 18h à peu près, pour voir s'il se comportait bien. Et il était au mouillage, et effectivement, il tirait sur sa chaîne. Enfin, c'était... Je sentais bien qu'il souffrait, mais bon, l'état de la mer ne me permettait pas d'aller à bord. Les équipes du port, dans la journée, ont fait plusieurs navettes, plusieurs passages pour voir si tout allait bien, et tout était bien. Et donc, vers 6h, 6h15, je suis retourné à la maison, me disant, ben, la mer commence à descendre, les conditions vont s'améliorer. Et un quart d'heure après, j'ai eu un coup de téléphone en me disant que le bateau était à la côte.
En plus, ce qui est dingue, c'est que les employés du port ont vraiment été super. Hein. Ils sont même allés plusieurs fois dans la journée. Après, à un moment donné, c'était trop dangereux. Quoi. Eux-mêmes ne pouvaient pas... Mais bon, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Effectivement, un bateau comme ça, on ne le met pas au ponton par tempête. Quoi. Il est le mieux au mouillage. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Nous, on ne pouvait plus y aller non plus. Et bon, pas de chance, quoi. Juste quand la marée allait redescendre, et donc ça allait moins tirer.
C'est-à-dire qu'il a cassé son bout, il a cassé sa chaîne. Et il est venu se fracasser contre la digue. Enfin, se fracasser, non, il est venu accoster sur la digue, il a tapé dessus. Les gens qui étaient là ont essayé de l'attraper, mais ils ne pouvaient pas monter à bord parce que c'était trop dangereux. Mais ils ont réussi quand même à l'accrocher un petit peu un été, enfin, etc., pour l'empêcher de partir. Mais c'est très lourd, un bateau comme ça, ça donne des secousses. Ça n'a pas tenu, ils n'ont pas réussi à le tenir. Et il leur a filé entre les mains et il est venu sur les rochers qui sont près de la digue, là. Et là, il a tapé dessus, il a résisté, il a fait comme la chef de M. Seguin, il a résisté aussi longtemps qu'il a pu. Mais quand il a commencé à taper sur des blocs pointus, ça a perforé la coque et l'eau est rentrée dedans. Alors à ce moment-là, quand le bateau est plein d'eau, il ne peut plus tenir, quoi. Il est ballotté et il devient très lourd et puis ben voilà.
Et ben voilà, quoi, il a tout lâché, il a tout cassé et puis pas de bol aussi parce que... Bah, quelque part, il serait échoué sur une plage, il y aurait eu des dégâts, mais pas comme ça, quoi. Et puis, quand il a rencontré les roches, qui étaient comme des... Enfin, c'est vraiment comme des pitons, quoi. Et là, avec une mer déchaînée, comme il y avait, et des roches comme ça, ça pardonne pas. Donc là, effectivement, la chance qu'on a eue, c'est que l'équipe du port aussi a réagi tout de suite. Elle a tout de suite prévenu, et puis réservé aussi la grue. La grue s'est rendue disponible. Ça a été assez, assez beau, en fait, comme moment de solidarité, parce qu'ils ont, ils se sont dit... parce que c'était dur d'y croire, quand même, hein, c'était moche à voir, quoi. Là, dans ces cas-là, on se dit, ouais, bon, bah, c'est une épave, on ne fait plus rien. Et ils se sont dit, bah, on ne va pas faire une deuxième marée, quoi. Faut vraiment l'enlever tout de suite. Donc, dès que la marée était basse, en fait, le crutage s'est organisé. Donc, entre minuit et 1h du matin, même entre 11h et 1h du matin, ça a pris facilement 2h. De tout gérer. C'est dur aussi de déloger des cailloux. C'était en palais dessus, quoi. Donc c'était aussi des moments assez durs. Parce que voilà, ça a un petit peu croché dedans. Bah, le lendemain, je pense qu'on avait, on avait tous pas beaucoup dormi. On avait tous besoin aussi d'être dans l'action. Donc on était tous sur le bateau à tout démonter, en fait, à tout vider. Puis les badauds sont passés, la famille aussi, les oncles. Pour porter un truc, démonter un truc. On a enlevé presque 2 tonnes, je crois, ce jour-là, et on a tout démonté le maximum, parce qu'on avait aussi peur des vols, et puis on voulait que ça aille vite, et puis je pense qu'on avait aussi besoin d'action. Puis bon, l'intérieur, c'était la bérésina, hein, c'était un mélange de gasoil, de sable, d'algues, de crabes, enfin, c'était, on n'y retrouvait rien, quoi. C'était vraiment un gros bazar, quoi. Donc il fallait, tout était coincé, bloqué, donc il a fallu tout vider. On nettoie tout ce qu'on peut, on sauve tout ce qu'on peut, on essaye de mettre ensemble les bouts de bois aussi, tout ce qu'on, le plancher, les étagères, enfin tout ce qu'on essaie de remettre un peu tout en ordre et puis de laver et de sécher, parce que le sable et la mer ça pardonne pas, hein, fallait faire tout vite. Enfin, voilà, c'était un moment très dense, c'était surréaliste en fait, on n'arrivait pas trop à se rendre compte. Et puis il y avait les gens qui passaient, nous on était dans l'action vraiment, hein. Et il y avait les gens qui passaient, qui disaient « Ouais, faut pas que vous le laissiez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous croyez que vous allez pouvoir le remettre en état ? Vous allez pouvoir le faire ?» Je dis « Bah, tout seul là, ça va être compliqué quand même, c'est quand même un gros truc, quoi. » Nous on avait tout de suite conscience que c'était énorme et que tout seul on pouvait pas, ça c'était sûr. Sur le moment, on savait pas trop. Après, quand on a eu ces gens-là, enfin, assez rapidement, quand on a eu les gens qui nous ont dit, les amis, la famille, les camarétois qui passaient, qui étaient bouleversés, et qui nous disaient « Non, mais il faut que vous montiez une cagnotte, il faut que vous fassiez quelque chose. » Enfin, vraiment, on était poussés à ça. dit ok, bon ben en fait c'est pas que nous quoi, c'est plus qu'un bateau, ce bateau il vibre, il a une âme et on, quelque part on a une responsabilité par rapport à ça aussi. Et donc on s'est dit ben ok, on joue le jeu quoi. Et puis, puis pas à pas, on a découvert, on a compris que c'était pas si simple. On se doutait un peu, mais on a appris voilà, qu'il fallait monter une association, comment il fallait la monter, comment monter une plateforme de collecte d'argent, comment on, voilà, les médias, vous êtes importants pour nous aussi, parce qu'il faut élargir le cercle au maximum. Et puis ça donne aussi de la crédibilité, parce qu'on sait qu'on a besoin de mécènes, hein, c'est clair. Et je pense que ça peut effrayer quand on montre ça et quand on parle du budget, alors qu'en fait, sincèrement, si tout le monde met un petit peu, c'est OK, quoi, c'est indolore et c'est le but d'une plateforme participative et c'est pour ça qu'on l'a montée, en fait. C'est pour que ce soit complètement faisable, hein. C'est le principe.
Les frais de réparation, ils s'élèvent à combien ?
Alors, on a estimé à 130 000, parce qu'on a reçu plusieurs devis, en fait. C'était aussi une étape qui nous a pris du temps. Que différents charpentiers marins de marine viennent et disent d'abord, enfin c'était une des questions qu'on avait, c'était est-ce que c'est faisable, est-ce que vous avez envie de le faire, enfin est-ce que c'est faisable, est-ce que vous avez envie de le faire, parce qu'on ne savait pas au départ, et donc on a été rassurés quand on en a eu, on doit avoir 5 devis je pense à peu près, 5-6 devis, et ils ont, la chance qu'on a eue, c'est qu'ils étaient unanimes, ils connaissaient tous Morvac, enfin, dans le coin, ils l'avaient tous vu, ils l'avaient tous connu, ils l'aimaient bien tous, donc ça a été un atout formidable pour nous, parce que du coup, quand on disait, voilà, il se passe ça, même si le côté artisan fait que des fois, c'était un peu long pour qu'ils viennent et qu'ils fassent le diagnostic ou qu'ils donnent le devis final, ils étaient tous là, non mais c'est clair, c'est un très très bon bateau, il faut qu'il navigue, il a une belle histoire, il a 50 ans, il faut qu'il reparte pour 50 ans... Et donc ça, c'était très rassurant pour nous. Hein. Le problème, c'est qu'on n'est pas... parce qu'on nous a dit ça aussi, dit ben, un chantier participatif et tout, mais on est sur des choses hyper techniques, quoi. Donc, ça ne s'improvise pas, une coque de bateau. Voilà, il y a des contraintes qui sont réelles, qui sont sérieuses. C'est un vrai savoir-faire, quoi. C'est pas pour rien, c'est un vrai job, quoi.
De quelle réparation il a besoin aujourd'hui ?
Ben, il aurait besoin, disons, vu son âge déjà, d'un contrôle général, tant qu'à faire, tant qu'à être sur un chantier, il faudrait inspecter toute la structure, etc., qui a quand même souffert dans le naufrage. Et puis, bah, déjà remplacer tout ce qui a été cassé, donc les membrures cassées, les bordées qui ont été abîmées, pratiquement tout le côté bâbord est pratiquement à refaire. Il y a les membrures qui ont tenu, parce que c'était quand même costaud. Mais il y en a plusieurs qu'il faut remplacer, et donc il faut revoir la structure des membrures, de voir la liaison avec les varangs, etc. Et après, remonter le tout. Et c'est un gros travail. Là-bas, le saumon, disons, en fonte, lui, il tient parce que c'est massif et c'est costaud. Mais le reste, ben, ça souffert. Il a bien résisté quand même, mais bon, il y a quand même beaucoup de trous. Et c'est un gros travail pour le remettre en état, parce qu'il y a des pièces extérieures pour changer un bordé, on peut le changer, mais en dessous, c'est la structure. Pour changer une pièce, il faut pouvoir démonter, aller plus loin. Pour pouvoir accéder, il faut démonter, il faut etc. Donc, tout s'enchaîne et c'est donc un gros travail des spécialistes. En plus, les pièces de bois, c'est pas de la menuiserie avec des pièces droites, etc. C'est tout en courbe, avec des angles de coupe qui varient suivant la position dans le bateau. Donc c'est un travail des spécialistes de relever les gabarits pour garder la forme du bateau. Il ne suffit pas de mettre une rustine, quoi.
C'est quoi une rustine ?
Ben, une rustine, c'est comme sur un vélo, quoi. On met une petite pastille, puis ça bouge le trou, et puis c'est bon, quoi. Là, d'abord, la dimension du trou, ça ne tiendrait pas, et puis il faut... Il faut que ça tienne à la pression de l'eau, aux secousses, aux différents chocs, etc. Donc il faut refaire la structure. C'est vraiment un travail de spécialiste. Maintenant, on répare plus facilement les bateaux en plastique, enfin en polyester, etc. Mais des bateaux en bois, à Camaret, dans le temps, il y avait beaucoup de chantiers, on construisait des bateaux en bois sur ce type de construction-là. Et maintenant, ça devient rare. Donc il y a quelques charpentiers de marine, disons, qui ont pris la relève, qui ont appris le métier. Il y a des écoles à Dordogne ou d'autres, enfin quelques-unes, mais ça sort au compte-gouttes un petit peu. C'est un travail de spécialiste. Donc il faut. L'intérêt justement, c'est de faire perdurer cette spécialité pour que justement ça fait partie du patrimoine, disons. Non seulement les objets, mais aussi de les refaire.
Donc la réparation du Morvac, ça va être une histoire de transmission aussi ?
C'est aussi une histoire de transmission, parce que c'est un savoir-faire qui était connu à l'époque, disons, il y a 50 ans. Mais il y a 50 ans, quand il était construit, c'était déjà la fin de la construction des bateaux en bois. Mais le savoir-faire était là, parce qu'il y avait toujours les anciens qui étaient toujours vivants, hein, toujours en activité, mais qui partaient à la retraite à mesure, et il y avait pas la relève n'était pas assurée. Et disons, des bateaux de ce type-là permettent de sauvegarder le patrimoine, pas seulement dans les musées, mais disons un patrimoine actif qui peut aller sur l'eau, qu'on peut voir, etc. Et lors des fêtes de rassemblement de Villegrément, il y a le plaisir, disons, d'être à bord, c'est agréable, mais aussi tous les gens qui sont à terre, il y en a beaucoup plus, qui sont amassés sur les quais et qui regardent le spectacle, c'est un beau spectacle en plus, disons. Donc ça intéresse tout le monde, quoi.
Vous pensez qu'il pourra retourner à l'eau quand ?
Ça va beaucoup dépendre des finances. Mais disons, les charpentiers me disent qu'ils ont à peu près pour 6 mois de travail à démonter, à remonter, enfin, etc. C'est un gros travail. Alors 6 mois, c'est ça, à partir d'aujourd'hui, c'est dans 6 mois. Voilà, ça dépend quand on pourra lancer les travaux, quoi.
Si vous avez quelque chose à ajouter.
Ben, merci, et puis on compte sur tout le monde, parce que ça, c'est un projet qui se fera que avec tout le monde, en fait.
On fait un appel au peuple, quoi.
Donc voilà, donc merci encore, et puis toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour qu'ils continuent à faire rêver, et puis qu'on continue à vivre l'aventure. Parce qu'on a aussi besoin de rêves et d'aventures dans la vie.